extrait de Les Grandes Espérances, Charles Dickens. Partie 1, chapitre 1. Le nom de famille de mon père étant Pierrip et mon nom de baptême Philippe, ma langue enfantine ne put jamais former de ces deux mots rien de plus long et de plus explicite que Pip. C'est ainsi que je m'appelais moi-même Pip et que tout le monde m'appela Pip. Si je donne Pierrip comme le nom de famille de mon père, c'est d'après l'autorité de l'épitaphe de son tombeau et l'attestation de ma sœur, Madame Jo Gargery, qui a épousé le forgeron. N'ayant jamais vu ni mon père ni ma mère, même en portrait, puisqu'ils vivaient bien avant les photographes, la première idée que je me formais de leur personne fut tirée, avec assez peu de raison, du reste de leur pierre tumulaire. La forme des lettres tracées sur celle de mon père me donna l'idée bizarre que c'était un homme brun, fort, carré, ayant les cheveux noirs et frisés. De la tournure et des caractères de cette inscription, et aussi Georgiana, épouse du ci-dessus, je tirais la conclusion enfantine que ma mère avait été une femme faible et maladive. Les 5 petits losanges de pierre d'environ 1,5 pied de longueur qui étaient rangés avec soin à côté de leur tombe et dédiés à la mémoire de 5 petits frères qui avaient quitté ce monde après y être à peine entrés, firent naître en moi une pensée que j'ai religieusement conservée depuis. C'est qu'ils étaient venus en ce monde couchés sur leur dos, les mains dans les poches de leurs pantalons, et qu'ils n'étaient jamais sortis de cet état d'immobilité. Notre pays est une contrée marécageuse, située à 20 milles de la mer, près de la rivière qui y conduit en serpentant. La première impression que j'éprouvais de l'existence des choses extérieures semble m'être venue par une mémorable après-midi, froide, tirant vers le soir. À ce moment, je devinais que ce lieu glacé, envahi par les orties, était le cimetière, que Philippe Pierrip, décédé dans cette paroisse, et Georgiana, sa femme, y étaient enterrés, que Alexander Bartholomé, Abraham, Tobias et Roger, fils d'Eddie, y étaient également morts et enterrés, que ce grand désert plat au-delà du cimetière, entrecoupé de murailles, de fossés et de portes avec des bestiaux qui paissaient ça et là, se composait de marais, que cette petite ligne de plomb plus loin était la rivière et que cette vaste étendue, plus éloignée encore et d'où nous venait le vent, était la mer. Et ce petit amas de chair tremblante, effrayé de tout cela et commençant à crier, était Pip.
« Tais-toi !»
s'écria une voix terrible au moment où un homme parut au milieu des tombes, près du portail de l'église.
« Tiens-toi tranquille, petit drôle, ou je te coupe la gorge !»
C'était un homme effrayant à voir, vêtu tout en gris, avec un anneau de fer à la jambe. Un homme sans chapeau, avec des souliers usés et troués, et une vieille loque autour de la tête. Un homme trempé par la pluie, tout couvert de boue, estropié par les pierres, écorché par les cailloux, déchiré par les épines, piqué par les orties, égratigné par les ronces. Un homme qui boitait, grelottait, grognait, dont les yeux flamboyaient et dont les dents claquaient lorsqu'il me saisit par le menton.
« Oh, monsieur, ne me coupez pas la gorge !» m'écriai-je avec terreur. « Je vous en prie, monsieur, ne me faites pas de mal !»«
Dis-moi ton nom !»
fit l'homme.
« Et vivement !»«
Pip, monsieur !»«
Encore une fois !»
dit l'homme en me fixant.
« Ton nom, ton nom !»«
Pip, Pip, monsieur !»«
Montre-nous où tu demeures !»
dit l'homme.
« Montre-nous ta maison !»
J'indiquai du doigt notre village, qu'on apercevait parmi les aulnes et les peupliers, à 1 mile ou 2. De l'église. L'homme, après m'avoir examiné pendant quelques minutes, me retourna la tête en bas, les pieds en l'air, et vida mes poches. Elles ne contenaient qu'un morceau de pain.
Quand je revins à moi, il avait agi si brusquement et j'avais été si effrayée que je voyais tout sans dessus-dessous et que le collier de l'église semblait être à mes pieds. Quand je revins à moi, dis-je, j'étais assis sur une grosse pierre où je tremblais pendant qu'il dévorait mon pain avec avidité.
« Mon jeune gaillard, » dit l'homme en se léchant les lèvres, « tu as des joues bien grasses. »
Je crois qu'effectivement mes joues étaient grasses, bien que je fusse resté petit et faible pour mon âge.
« Du diable si je ne les mangerais pas !»
dit l'homme en faisant un signe de tête menaçant.
« Je crois même que j'en ai quelques envies. »
J'exprimais l'espoir qu'il n'en ferait rien, et je me cramponnais plus solidement à la pierre sur laquelle il m'avait placé, autant pour m'y tenir en équilibre que pour m'empêcher de crier.
« Allons !»
dit l'homme.
« Parle, où est ta mère ?»«
Là, monsieur, » répondis-je. Il fit un mouvement, puis quelques pas, et s'arrêta pour regarder par-dessus son épaule. « Là, monsieur, » repris-je timidement, en montrant la tombe. « Aussi, Georgiana, c'est ma mère. »«
Oh !» dit-il en revenant. « Et c'est ton père qui est là, étendu à côté de ta mère ?»«
Oui, monsieur, » dis-je. C'est lui, défunt de cette paroisse.
Ah,
murmura-t-il en réfléchissant.
Avec qui demeures-tu, en supposant qu'on te laisse demeurer quelque part, ce dont je ne suis pas certain.
Avec ma sœur, monsieur, Madame Jo Gargery. La femme de Jo Gargery, le forgeron, monsieur.
Le forgeron, hein ?
Dit-il, en regardant le bas de sa jambe. Après avoir pendant un instant promené ses yeux alternativement sur moi et sur sa jambe, il me prit dans ses bras, me souleva et me tenant de manière à ce que ses yeux plongeassent dans les miens de haut en bas et les miens dans les siens de bas en haut, il dit
« Maintenant écoute-moi bien, c'est toi qui vas décider si tu dois vivre. Tu sais ce que c'est qu'une lime ?»«
Oui, monsieur. » »«
Tu sais aussi ce que c'est que des vivres ?»«
Oui, monsieur. » Après chaque question, il me secouait un peu plus fort, comme pour me donner une idée plus sensible de mon abandon et du danger que je courais.
« Tu me trouveras une lime. »
Il me secouait.
« Et tu me trouveras des vivres. »
Il me secouait encore.
« Tu m'apporteras ces deux choses. »
Il me secouait plus fort.
« Ou j'aurai ton cœur et ton foie. »
Et il me secouait toujours. J'étais mortellement effrayée et si étourdie que je me cramponnais à lui en disant « « Si vous vouliez bien ne pas tant me secouer, monsieur, peut-être n'aurais-je pas mal au cœur et peut-être entendrais-je mieux. » Il me donna une secousse si terrible qu'il me semble avoir dansé le coq sur son clocher. Alors, il me soutint par les bras dans une position verticale sur le bloc de pierre. Puis, il continua en ces termes effrayants.
« Tu m'apporteras demain matin, à la première heure, une lime et des vivres. Tu m'apporteras le tout dans la vieille batterie là-bas. » Tu auras soin de ne pas dire un mot, de ne pas faire un signe qui puisse faire penser que tu m'as vu, ou que tu as vu quelqu'un d'autre. À ces conditions, on te laissera vivre. Si tu manques à cette promesse, en quelque manière que ce soit, ton cœur et ton foie te seront arrachés pour être rôtis et mangés. Et puis je ne suis pas seul, ainsi que tu peux le croire. Il y a là un jeune homme avec moi, un jeune homme auprès duquel je suis un ange. Ce jeune homme entend ce que je te dis. Ce jeune homme a un moyen tout particulier de se procurer le cœur et le foie des petits gars de ton espèce. Il est impossible à n'importe quel moucheron comme toi de le fuir ou de se cacher de lui. Tu auras beau fermer la porte au verrou, te croire en sûreté dans ton lit bien chaud, te cacher la tête sous les couvertures, espérer que tu es à l'abri de tout danger, ce jeune homme saura s'approcher de toi et t'ouvrir le ventre. Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que j'empêche en ce moment ce jeune homme de te faire du mal. J'ai beaucoup de peine à l'empêcher de fouiller tes entrailles. Eh bien, qu'en dis-tu ?
Je lui dis que je lui procurerai la lime dont il avait besoin et toutes les provisions que je pourrais apporter et que je viendrai le trouver à la batterie le lendemain à la première heure.
Répète après moi. Que Dieu me frappe de mort si je ne fais pas ce que vous m'ordonnez,
fit l'homme. Je dis ce qu'il voulut, et il me posa à terre.
« Maintenant, »
reprit-il,
« souviens-toi de ce que tu promets. Souviens-toi de ce jeune homme et rentre chez toi.
Bonsoir, monsieur. » murmurai-je en tremblant.
« C'est égal !»
dit-il en jetant les yeux sur le sol humide.
« Je voudrais bien être grenouille ou anguille !»
En même temps, il entoura son corps grelottant avec ses grands bras, en les serrant tellement qu'ils avaient l'air d'y tenir, et s'en alla en boitant le long du mur de l'église. Comme je le regardais s'en aller à travers les ronces et les orties qui couvraient les tertres de gazon, il sembla à ma jeune imagination qu'il éludait, en passant, les mains que les morts étendaient avec précaution hors de leur tombe pour le saisir à la cheville et l'attirer chez eux. Lorsqu'il arriva au pied du mur qui entoure le cimetière, il l'escalada comme un homme dont les jambes sont roides et engourdies. Puis, il se retourna pour voir ce que je faisais. Je me tournai alors du côté de la maison et fis de mes jambes le meilleur usage possible. Mais bientôt, regardant en arrière, je le vis s'avancer vers la rivière, toujours enveloppé de ses bras et choisissant pour ses pieds malades les grandes pierres jetées çà et là dans les marais pour servir de passerelle lorsqu'il avait beaucoup plu ou que la marée y était montée. Les marais formaient alors une longue ligne noire horizontale. La rivière formait une autre ligne, un peu moins large et moins noire. Les nuages, eux, formaient de longues lignes rouges et noires, entremêlées et menaçantes. Sur le bord de la rivière, je distinguais à peine les deux seuls objets noirs qui se détachaient dans toute la perspective qui s'étendait devant moi. L'un était le fanal, destiné à guider les matelots, ressemblant assez à un casque sans houppe placé sur une perche et qui était fort laid vu de près. L'autre, un gibet, avec ses chaînes pendantes, auxquelles on avait jadis pendu un pirate. L'homme qui s'avançait en boitant vers ce dernier objet semblait être le pirate revenu à la vie et allant se raccrocher et se reprendre lui-même. Cette pensée me donna un terrible moment de vertige. Et en voyant les bestiaux lever leur tête vers lui, je me demandais s'ils ne pensaient pas comme moi. Je regardais autour de moi pour voir si je n'apercevais pas l'horrible jeune homme. Je n'en vis pas la moindre trace. Mais la frayeur me reprit tellement que je courus à la maison sans m'arrêter. Chapitre 2. Ma sœur, Madame Jo Gargery, n'avait pas moins de 20 ans de plus que moi. Et elle s'était fait une certaine réputation d'âme charitable auprès des voisins, en m'élevant, comme elle disait, à la main. Obligée à cette époque de trouver par moi-même la signification de ce mot, et sachant parfaitement qu'elle avait une main dure et lourde, que d'habitude elle laissait facilement retomber sur son mari et sur moi, je supposais que Jo Gargery était, lui aussi, élevé à la main. Ce n'était pas une femme bien avenante que ma sœur, et j'ai toujours conservé l'impression qu'elle avait forcé par la main Jo Gargery à l'épouser. Jo Gargery était un bel homme. Des boucles couleur filasse encadraient sa figure douce et bonasse, et le bleu de ses yeux était si vague et si indécis qu'on eut de la peine à définir l'endroit où le blanc lui cédait la place, car les deux nuances semblaient se fondre l'une dans l'autre. C'était un bon garçon, doux, obligeant, une bonne nature, un caractère facile, une sorte d'Hercule par sa force et aussi par sa faiblesse. Ma sœur, Madame Jo, avec des cheveux et des yeux noirs, avait une peau tellement rouge que je me demandais souvent si, peut-être, pour sa toilette, elle ne remplaçait pas le savon par une râpe à muscade. C'était une femme grande et osseuse. Elle ne quittait presque jamais un tablier de toile grossière, attaché par derrière à l'aide de deux cordons, et une bavette imperméable toujours parsemée d'épingles et d'aiguilles. Ce tablier était la glorification de son mérite et un reproche perpétuellement suspendu sur la tête de Jo. Je n'ai jamais pu deviner pour quelle raison elle le portait, ni pourquoi. Si elle voulait absolument le porter, elle ne l'aurait pas changé, au moins une fois par jour. La forge de Jo attenait à la maison, construite en bois, comme l'était à cette époque plus que la plupart des maisons de notre pays. Quand je rentrais du cimetière, la forge était fermée, et Jo était assis tout seul, dans la cuisine. Joe et moi, nous étions compagnons de souffrance, et comme tels, nous nous faisions des confidences. Aussi, à peine eus-je soulevé le loquet de la porte et l'eus-je aperçu dans le coin de la cheminée qu'il me dit « Madame Joe est sortie 12 fois pour te chercher, mon petit Pip, et elle est maintenant dehors 13e fois pour compléter la 12aine de boulangers. Vraiment ?»« Oui, mon petit Pip, » dit Joe. « Et ce qu'il y a de pire pour toi, c'est qu'elle a pris Tickler avec elle. » À cette terrible nouvelle, je me mis à tortiller l'unique bouton de mon gilet, et d'un air abattu, je regardais le feu. Tickler était un jonc flexible, poli à son extrémité par de fréquentes collisions avec mon pauvre corps. « Elle se levait sans cesse, » dit Joe. « Elle parlait à Tickler, puis elle s'est précipitée dehors comme une furieuse. » Comme une furieuse, ajouta Joe, en tisonnant le feu entre les barreaux de la grille avec le poker. Il y a longtemps qu'elle est sortie, Joe, dis-je, car je le traitais toujours comme un enfant, et le considérait comme mon égal. Dit Joe en regardant le coucou landais. Il y a bien 5 minutes qu'elle est partie en fureur, mon petit Pip. Elle revient. Cache-toi derrière la porte, mon petit Pip, et rabats l'essuie-main sur toi. Je suivis ce conseil. Ma sœur, Madame Joe, entra en poussant la porte ouverte. Et, trouvant une certaine résistance, elle en devina aussitôt la cause et chargea Tickler de ses investigations. Elle finit, je lui servais souvent de projectile conjugal, par me jeter sur Joe, qui, heureux de cette circonstance, me fit passer sous la cheminée et me protégea tranquillement avec ses longues jambes. « D'où viens-tu, petit singe ?» dit Madame Joe en frappant du pied. « Dis-moi bien vite ce que tu as fait pour me donner ainsi de l'inquiétude et du tracas. Sans cela, je saurais bien t'attraper dans ce coin quand vous seriez 50 pips et 500 gargaris.
Je suis seulement allée jusqu'au cimetière, » dis-je du fond de ma cachette en pleurant et en me grattant.
« Au cimetière ?» répéta ma sœur.
« Sans moi, il y a longtemps que tu y serais allée et que tu n'en serais pas revenue. »
« Qui donc t'a élevé ?»«
C'est toi, » dis-je.
« Et pourquoi y es-tu allé ? Voilà ce que je voudrais savoir !»
s'écria ma sœur.
« Je ne sais pas, » dis-je à voix basse.
« Je ne sais pas, » reprit ma sœur. « Je ne le ferai plus jamais. Je connais cela. Je t'abandonnerai un de ces jours, moi qui n'ai jamais quitté ce tablier depuis que tu es au monde. » C'est déjà bien assez d'être la femme d'un forgeron et d'un garguerri encore, sans être ta mère. »
Mes pensées s'écartèrent du sujet dont il était question, car en regardant le feu d'un air inconsolable, je vis paraître, dans les charbons vengeurs, le fugitif des marais, avec sa jambe ferrée, le mystérieux jeune homme, la lime, les vivres et le terrible engagement que j'avais pris de commettre un larcin sous ce toit hospitalier.
« Ah !» dit Madame Joe en remettant Tickler à sa place. « Au cimetière, c'est bien cela. C'est bien à vous qu'il appartient de parler de cimetière. Pas un de nous, entre parenthèses, n'avait soufflé un mot de cela. Vous pouvez vous en vanter tous les deux. Vous m'y conduirez un de ces jours au cimetière. Ah, quel... vous ferez sans moi. »
Pendant qu'elle s'occupait à préparer le thé, Joe tournait sur moi des yeux interrogateurs, comme pour me demander si je prévoyais quelle sorte de couple nous pourrions bien faire à nous deux, si le malheur prédit arrivait. Puis il passa sa main gauche sur ses favoris, en suivant de ses gros yeux bleus les mouvements de Madame Joe, comme il faisait toujours par les temps d'orage. Ma sœur avait adopté un moyen de nous préparer nos tartines de beurre qui ne variait jamais. Elle appuyait d'abord vigoureusement et longuement avec sa main gauche le pain sur la poitrine où il ne manquait pas de ramasser sur la bavette tantôt une épingle, tantôt une aiguille qui se retrouvait bientôt dans la bouche de l'un de nous. Elle prenait ensuite un peu, très peu, de beurre à la pointe d'un couteau et l'étalait sur le pain de la même manière qu'un apothicaire prépare un emplâtre, se servant des deux côtés du couteau avec dextérité et ayant soin de ramasser ce qui dépassait le bord de la croûte. Puis, elle donnait le dernier coup de couteau sur le bord de l'emplâtre et elle tranchait une épaisse tartine de pain que finalement elle séparait en deux moitiés, l'une pour Joe, l'autre pour moi.
Ce jour-là, j'avais faim, et malgré cela, je n'osais pas manger ma tartine. Je sentais que j'avais à réserver quelque chose pour ma terrible connaissance et son allié, plus terrible encore, le jeune homme mystérieux. Je savais que Madame Jo dirigeait sa maison avec la plus stricte économie, et que mes recherches dans le garde-manger pourraient bien être infructueuses. Je me décidai donc à cacher ma tartine dans l'une des jambes de mon pantalon. L'effort de résolution nécessaire à l'accomplissement de ce projet me paraissait terrible. Il produisait sur mon imagination le même effet que si j'eusse dû me précipiter d'une haute maison ou dans une eau très profonde. Et il me devenait d'autant plus difficile de m'y résoudre finalement que Jo ignorait tout. Dans l'espèce de franc-maçonnerie déjà mentionnée par moi, qui nous unissait comme compagnons des mêmes souffrances, et dans la camaraderie bienveillante de Jo pour moi, nous avions coutume de comparer nos tartines à mesure que nous y faisions des brèches, en les exposant à notre mutuelle admiration, comme pour stimuler notre ardeur. Ce soir-là, Jo m'invita plusieurs fois à notre lutte amicale, en me montrant les progrès que faisait la brèche ouverte dans sa tartine. Mais chaque fois, il me trouva avec ma tasse de thé sur un genou et ma tartine intacte sur l'autre. Enfin, je considérais que le sacrifice était inévitable. Je devais le faire de la manière la moins extraordinaire et la plus compatible avec les circonstances. Profitant donc d'un moment où Jo avait les yeux tournés, je fourrai ma tartine dans une des jambes de mon pantalon. Jo paraissait évidemment mal à l'aise de ce qu'il supposait être un manque d'appétit, et il mordait tout pensif à même sa tartine des bouchées qu'il semblait avaler sans aucun plaisir. Il les tournait et retournait dans sa bouche, plus longtemps que de coutume, et finissait par les avaler comme des pilules. Il allait saisir encore une fois avec ses dents le pain beurré, et avait déjà ouvert une bouche d'une dimension fort raisonnable, lorsque ses yeux, tombant sur moi, il s'aperçut que ma tartine avait disparu. L'étonnement et la consternation avec lesquels Jo avait arrêté le pain sur le seuil de sa bouche et me regardait étaient trop évidents pour échapper à l'observation de ma sœur. « Qu'y a-t-il encore ? » dit-elle en posant sa tasse sur la table. « Oh oh !» murmurait Jo en secouant la tête, d'un air de sérieuse remontrance. Mon petit Pip, mon camarade, tu te feras du mal, ça ne passera pas, tu n'as pas pu la mâcher, mon petit Pip, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a encore, voyons ? Répéta ma sœur avec plus d'aigreur que la première fois. Si tu peux en faire remonter quelques parcelles en toussant, mon petit Pip, fais-le, mon ami, dit Jo. Certainement, chacun mange comme il l'entend, mais encore. « Ta santé, ta santé !» À ce moment, ma sœur furieuse avait attrapé Jo par ses deux favoris et lui cognait la tête contre le mur. Pendant qu'assis dans mon coin, je l'ai considéré d'un air vraiment piteux.
« Maintenant, peut-être vas-tu me dire ce qu'il y a, gros niais que tu es !»
dit ma sœur hors d'haleine. Jo promena sur elle un regard désespéré, prit une bouchée désespérée, puis il me regarda de nouveau. « Tu sais, mon petit Pip, » dit-il d'un ton solennel et confidentiel, comme si nous eussions été seuls et en logeant sa dernière bouchée dans sa joue. « Tu sais que toi et moi sommes bons amis et que je serai le dernier à faire aucun mauvais rapport contre toi, mais faire un pareil coup ?» Il éloigna sa chaise pour regarder le plancher entre lui et moi, puis il reprit. « Avaler un pareil morceau d'un seul coup ?» « Il a avalé tout son pain, n'est-ce pas ?» s'écria ma sœur. « Tu sais, mon petit Pip, » reprit Jo en me regardant, sans faire la moindre attention à Madame Jo et ayant toujours sous la joue sa dernière bouchée. « Que j'ai avalé aussi, moi qui te parle, et souvent encore, quand j'avais ton âge. Et j'ai vu bien des avaleurs, mais je n'ai jamais vu avaler comme toi, mon petit Pip, et je m'étonne que tu n'en sois pas mort. » C'est par une permission du bon Dieu. Ma sœur s'élança sur moi, me prit par les cheveux et m'adressa ces paroles terribles.
Arrive, mauvais garnement, qu'on te soigne!
Quelques brutes médicales avaient à cette époque remis en vogue l'eau de goudron comme un remède très efficace, et Madame Jo en avait toujours dans son armoire une certaine provision. croyant qu'elle avait d'autant plus de vertus qu'elle était plus dégoûtante. Dans de meilleurs temps, un peu de cet élixir m'avait été administré comme un excellent fortifiant. Je craignis donc ce qui allait arriver, pressentant une nouvelle entrave à mes projets de sortie. Ce soir-là, l'urgence du cas demandait au moins une pinte de cette drogue. Madame Jo me l'introduisit dans la gorge, pour mon plus grand bien, en me tenant la tête sous son bras comme un tire-botte tient une chaussure. Jo en fut quitte pour une demi-pinte qu'il dut avaler, bon gré, mal gré, pendant qu'il était assis, mâchant tranquillement et méditant devant le feu, parce qu'il avait peut-être eu mal au cœur. Jugeant d'après moi, je puis dire qu'il y aurait eu mal après, s'il n'y avait eu mal avant. La conscience est une chose terrible, quand elle accuse soit un homme, soit un enfant. Mais quand ce secret fardeau se trouve lié à un autre fardeau, enfoui dans les jambes d'un pantalon, c'est, je puis l'avouer, une grande punition. La pensée que j'allais commettre un crime en volant Madame Jo, l'idée que je volerais Jo, ne me serait jamais venue, car je n'avais jamais pensé qu'il eût aucun droit sur les ustensiles du ménage. Cette pensée, jointe à la nécessité dans laquelle je me trouvais de tenir sans relâche ma main sur ma tartine pendant que j'étais assis ou que j'allais à la cuisine chercher quelque chose ou faire quelques commissions, me rendait presque fou. Alors, quand le vent des marais venait ranimer et faire briller le feu de la cheminée, il me semblait entendre, au dehors, la voix de l'homme à la jambe ferrée qui m'avait fait jurer le secret, me criant qu'il ne pouvait ni ne voulait jeûner jusqu'au lendemain, mais qu'il lui fallait manger tout de suite. D'autres fois, je pensais que le jeune homme, qu'il était si difficile d'empêcher de plonger ses mains dans mes entrailles, pourrait bien céder à une impatiente constitutionnelle ou se tromper d'heure et se croire des droits à mon cœur et à mon foie ce soir même au lieu de demain. S'il est jamais arrivé à quelqu'un de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, ce doit être à moi. Mais peut-être cela n'est-il jamais arrivé à personne. C'était la veille de Noël et j'étais chargée de remuer avec une tige en cuivre la pâte du pudding pour le lendemain. Et cela de 7 à 8 heures au coucou hollandais. J'essayais de m'acquitter de ce devoir sans me séparer de ma tartine. Et cela me fit penser une fois de plus à l'homme chargé de fer. Et j'éprouvais alors une certaine tendance à sortir la malheureuse tartine de mon pantalon, mais la chose était bien difficile. Heureusement, je parvins à me glisser jusqu'à ma petite chambre, où je déposais cette partie de ma conscience. « Écoute, » dis-je, quand j'eus fini le pudding et que je revins prendre encore un peu de chaleur au coin de la cheminée, avant qu'on ne m'envoyât coucher. « Pourquoi tire-t-on ces grands coups de canon, Joe ?»« Ah !» dit Joe. « Encore un forçat d'évader ?»« Qu'est-ce que cela veut dire, Joe ?» Madame Jo, qui se chargeait toujours de donner des explications, répondit avec aigreur. « Échapper ! Échapper !» administrant ainsi la définition comme elle administrait l'eau de goudron. Tandis que Madame Jo avait la tête penchée sur son ouvrage d'aiguille, je tâchais, par des mouvements muets de mes lèvres, de faire entendre à Jo cette question. « Qu'est-ce qu'un forçat ?» Jo me fit une réponse grandement élaborée, à en juger les contorsions de sa bouche, mais dont je ne pus former que le seul mot « pipe ». Un forçat s'est évadé hier soir, après le coup de canon du coucher du soleil, reprit Jo à haute voix, et on a tiré le canon pour en avertir, et maintenant on tire sans doute encore pour un autre. « Qu'est-ce qui tire ?» demandai-je. « Qu'est-ce que c'est qu'un garçon comme ça ?» fit ma sœur en fronçant le sourcil par-dessus son ouvrage. « Quel questionneur éternel tu fais ! Ne fais pas de questions et on ne te dira pas de mensonges. » Je pensais que ce n'était pas très poli pour elle-même de me laisser entendre qu'elle me dirait des mensonges si je lui faisais des questions. Mais elle n'était jamais polie avec moi, excepté quand il y avait du monde. À ce moment, Jo vint augmenter ma curiosité au plus haut degré en prenant beaucoup de peine pour ouvrir la bouche toute grande et lui faire prendre la forme d'un mot qui, au mouvement de ses lèvres, me parut être « boudé ». Je regardai naturellement Madame Jo et dis « elle ?» Mais Jo ne parut rien entendre du tout et il répéta le mouvement avec plus d'énergie encore. Je ne compris pas davantage. « Mistress Jo, » dis-je comme dernière ressource, « je voudrais bien savoir si cela ne te fait rien, où l'on tire le canon ?»«
Que Dieu bénisse cet enfant !» s'écria ma sœur, d'un ton qui faisait croire qu'elle pensait tout le contraire de ce qu'elle disait. « Au ponton !»«
Oh !» dis-je en levant les yeux sur Joe. « Au ponton !»
Joe me lança un regard de reproche qui disait « Je te l'avais bien dit. »«
Et s'il te plaît, qu'est-ce que les pontons ?» repris-je.
« Voyez-vous !» s'écria ma sœur en dirigeant sur moi son aiguille et en secouant la tête de mon côté.
« Répondez-lui une fois, il vous fera de suite une douzaine de questions. Les pontons sont des vaisseaux qui servent de prison et qu'on trouve en traversant tout droit les marées. »«
Je me demande qui on peut mettre dans ces prisons et pourquoi on y met quelqu'un ?» dis-je d'une manière générale avec un désespoir calme. C'en était trop pour Madame Jo, qui se leva immédiatement.
« Je vais te le dire, méchant vaurien, » fit-elle. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu fasses mourir personne à petit feu. Je serais à blâmer et non à louer si je l'avais fait. On met sur les pontons ceux qui ont tué, volé, fait défaut et toutes sortes de mauvaises actions. Et ces gens-là ont tous commencé comme toi par faire des questions. Maintenant, va te coucher et dépêchons. »
On ne me donnait jamais de chandelle pour m'aller coucher. Et en gagnant cette fois ma chambre dans l'obscurité, ma tête tintait, car Madame Jo avait tambouriné avec son dé sur mon crâne en disant ses derniers mots. Et je sentais avec épouvante que les pontons étaient faits pour moi. J'étais sur le chemin, c'était évident. J'avais commencé à faire des questions et j'étais sur le point de voler Madame Jo. Depuis cette époque, bien reculée maintenant, j'ai souvent pensé combien peu de gens savent à quel point on peut compter sur la discrétion des enfants frappés de terreur. Cependant, rien n'est plus déraisonnable que la terreur. J'éprouvais une terreur mortelle en pensant au jeune homme qui en voulait absolument à mon cœur et à mes entrailles. J'éprouvais une terreur mortelle au souvenir de mon interlocuteur à la jambe ferrée. J'éprouvais une terreur mortelle de moi-même depuis qu'on m'avait arraché ce terrible serment. Je n'avais aucun espoir d'être délivré de cette terreur par ma toute-puissante sœur qui me rebutait à chaque tentative que je faisais. Et je suis effrayée rien qu'en pensant à ce qu'un ordre quelconque aurait pu m'amener à faire sous l'influence de cette terreur. Si je dormis un peu cette nuit-là, ce fut pour me sentir entraînée vers les pontons par le courant de la rivière. En passant près de la potence, je vis un fantôme de pirate qui me criait dans un porte-voix que je ferais mieux d'aborder et d'être pendu tout de suite que d'attendre. J'aurais eu peur de dormir, quand même j'en aurais eu l'envie car je savais que c'était à la première aube que je devais piller le garde-manger. Il ne fallait pas songer à agir la nuit car je n'avais aucun moyen de me procurer de la lumière, si ce n'est en battant le briquet ou une pierre à fusil avec un morceau de fer, ce qui aurait produit un bruit semblable à celui du pirate agitant ses chaînes. Dès que le grand rideau noir qui recouvrait ma petite fenêtre eut pris une légère teinte grise, je descendis. Chacun de mes pas sur le plancher produisait un craquement qui me semblait crier « Au voleur, réveillez-vous, Mistress Jo, réveillez-vous !» Arrivé au garde-manger, qui, vu la saison, était plus abondamment garni que de coutume, j'eus un moment de frayeur indescriptible à la vue d'un lièvre pendu par les pattes. Il me sembla même qu'il fixait sur moi un œil beaucoup trop vif pour sa situation. Je n'avais pas le temps de rien vérifier ni de choisir. En un mot, je n'avais le temps de rien faire. Je pris du pain, du fromage, une assiette de hachis que je nouai dans mon mouchoir avec la fameuse tartine de la veille, un peu d'eau de vie dans une bouteille de grès que je transvasais dans une bouteille de verre que j'avais secrètement emportée dans ma chambre pour composer ce liquide enivrant appelé jus de réglisse, remplissant la bouteille de grès avec de l'eau que je trouvais dans une cruche dans le buffet de la cuisine. Un os, auquel il ne restait que fort peu de viande, et un magnifique pâté de porc. J'allais partir sans ce splendide morceau quand j'eus l'idée de monter sur une planche pour voir ce que pouvait contenir ce plat de terre si soigneusement relégué dans le coin le plus obscur de l'armoire et que je découvris le pâté. Je m'en emparais avec l'espoir qu'il n'était pas destiné à être mangé de sitôt et qu'on ne s'apercevrait pas de sa disparition, de quelque temps au moins. Une porte de la cuisine donnait accès dans la forge. Je tirai le verrou. J'ouvris cette porte et je pris une lime parmi les outils de Jo. Puis, je remis toutes les fermetures dans l'état où je les avais trouvées. J'ouvris la porte par laquelle j'étais rentrée le soir précédent, je m'élançai dans la rue et pris ma course vers les marais brumeux.